VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 24 avril 2023, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer les titres, plusieurs pays évacuent du Soudan leurs ressortissants. Au Mali, 10 civils et 3 soldats tués, ainsi que plusieurs djihadistes neutralisés dans ce que le gouvernement a appelé un regain d'incidents terroristes perfides. Au Burkina Faso, une soixantaine de civils tués dans le nord par des hommes arborant des tenues militaires, a annoncé le procureur de Waiguia qui a ouvert une enquête. Au Kenya, 26 nouveaux corps de fidèles présumés d'une secte exhumés dans une forêt. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Plusieurs pays ont débuté des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan où les combats entre l'armée et les paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, ont fait plus de 420 morts et 3700 blessés selon un bilan provisoire de l'OMS. Nathalie Barge.
Le président américain Joe Biden a annoncé samedi que l'armée a mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum. Une centaine de soldats ont participé à l'évacuation d'environ 100 personnes, dont des diplomates étrangers, au moyen d'une opération héliportée. La France a annoncé hier avoir commencé une opération d'évacuation rapide de ses ressortissants et de son personnel diplomatique. Elle prend en charge des ressortissants européens et d'autres pays, notamment africains. L'Italie a lancé une opération pour ses ressortissants et des membres de l'ambassade du Saint-Siège. Des Néerlandais ont été évacués à bord d'un avion français et d'autres ont quitté Khartoum dans un convoi de l'ONU. L'Allemagne a annoncé hier avoir commencé l'évacuation de ses ressortissants après l'échec d'une première tentative mercredi. La Grèce a dit avoir évacué hier vers Djibouti des Grecs, dont 2 blessés avec l'assistance de la France. D'autres pays européens évacuent aussi leurs ressortissants. L'Arabie Saoudite a évacué samedi 91 Saoudiens et une soixantaine de ressortissants de 12 autres pays. La Jordanie, l'Irak, le Liban et la Turquie ont également engagé des opérations d'évacuation. La Tunisie va évacuer des Tunisiens vivant au Soudan lundi. La Libye a annoncé l'évacuation de 83 Libyens vers Port-Soudan. Des pays asiatiques comme la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l'Indonésie et l'Inde se préparent à évacuer leurs ressortissants. L'armée soudanaise a déclaré qu'elle coordonnait les efforts visant à évacuer des diplomates chinois.
Les affrontements entre l'armée régulière soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont éclaté le 15 avril à Khartoum et dans le reste du pays. Ils ont donc fait au moins 420 morts et 3700 blessés. Des colonnes d'épaisses fumées continuaient à obscurcir dimanche le ciel de Khartoum et des villes voisines d'Omdurman et Bahri. Et des coups de feu pouvaient être entendus dans plusieurs quartiers selon un journaliste de l'agence Reuters présent dans la capitale soudanaise. Cette situation chaotique oblige de nombreux habitants de Khartoum à rester cloîtrés chez eux en raison des bombardements et de la présence d'hommes armés dans les rues. Dans la région de Mopti au Mali, une attaque à la voiture piégée a visé une base aérienne à Sévaré samedi. 10 civils et 3 soldats ont été tués et 88 djihadistes neutralisés, a indiqué le gouvernement, dans une vague de violence qu'il a qualifiée de regain d'incidents terroristes perfides. Michel Joseph.
Des djihadistes présumés ont attaqué la zone de l'aéroport de Sévaré en faisant exploser des voitures piégées qui ont fait 10 morts et 61 blessés civils et ont entraîné l'effondrement de quelques maisons, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Les assaillants ont été mis en déroute, affirme le communiqué. Deux élus locaux et une source diplomatique ont désigné le lieu de l'attaque comme étant un camp des troupes russes. L'attaque a duré environ 2h30 selon des sources militaires. 4 fortes explosions ont été entendues, suivies de tirs à l'arme automatique, ont raconté des habitants, ajoutant que de la fumée a été aperçue près de l'aéroport. L'armée malienne a depuis repris le contrôle de la zone. Selon un élu local, des militaires sénégalais de la MINUSMA sont intervenus. Ce camp de la mission onusienne s'étend sur 4 hectares près de l'aéroport et du camp de l'armée malienne qui abrite les Russes. Le colonel Abbas Dembélé, gouverneur de la région de Mopti, s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Il a rendu visite aux blessés à l'hôpital avant d'aller dans la zone aéroportuaire où le véhicule piégé a explosé sans atteindre sa cible, a indiqué le gouvernorat. Le Mali est en proie à la violence djihadiste et de toutes sortes depuis le déclenchement des rébellions dans le nord du pays en 2012. Il est dirigé depuis août 2020 par une junte militaire qui a rompu des accords militaires avec la France et d'autres pays associés à la lutte contre le terrorisme et s'est tournée vers un partenariat avec la Russie.
Au Burkina Faso, annonce hier selon laquelle au moins une 60aine de personnes ont été tuées vendredi dans une attaque à Karma dans le département de Barga. C'est dans la province de Yatenga, région du Nord. Cette annonce a été faite par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaïgouya, capitale de la région du Nord. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le commandant de la brigade de recherche de gendarmerie de Ouaïgouya me rendait compte de ce que dans le village de Karma, une 60aine de personnes auraient été tuées, a déclaré le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaïgouya, Lamine Kabore. Selon lui, ces villageois ont été tués par des personnes arborant des tenues des forces armées burkinabè. Les auteurs de ces faits auraient emporté divers biens dans la dite localité, fait-il savoir tout en citant la brigade. Mon parquet, saisi de ces faits dont la gravité est avérée, a donné les instructions nécessaires à la sous-unité d'enquête de procéder à tous les actes en vue de les élucider et d'interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées, a rassuré le procureur avant d'ajouter qu'il saisit l'occasion pour lancer un appel à toute personne qui disposerait d'informations sur ces faits à lui en faire la dénonciation. Le week-end dernier, l'état-major a annoncé la mort de 40 personnes supplétives de l'armée comme militaires dans l'attaque du camp de VDP, volontaires pour la défense de la patrie, situé à une quinzaine de kilomètres de Ouaïgouya dans la même région du Nord. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé dimanche soir l'ouverture mardi en Tanzanie de négociations de paix avec l'OLA, groupe rebelle actif dans la région de l'Oromia, la plus vaste et peuplée du pays qui enserre la capitale Addis Abeba. Monsieur Abiy s'exprimait lors d'une cérémonie réunissant les participants et parrains du processus de paix au Tigré, région du nord de l'Éthiopie où un accord de paix signé le 2 novembre a mis fin à 2 ans de conflit entre le gouvernement et le gouvernement fédéral et les autorités régionales entraient en rébellion contre le pouvoir fédéral. 26 nouveaux corps ont été exhumés dimanche dans l'est du Kenya, portant à 47 le nombre de dépouilles découvertes depuis vendredi dans l'enquête sur la mort de fidèles d'une secte dont le chef aurait dit déjeuner pour rencontrer Jésus. Gabi Dorsil.
Les corps de 4 adeptes de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle, dirigée par Mackenzie Ntenge, avaient été retrouvés la semaine dernière. La division des enquêtes criminelles du sous-comté de Malindi a précisé que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps ou d'éventuels survivants qui se cachent dans la forêt de Chakaola. Une fidèle a été retrouvée hier. Elle a refusé de s'alimenter avant d'être emmenée dans une ambulance. Les enquêteurs ont fouillé la zone en raison d'informations évoquant une possible fosse commune. 11 autres fidèles, 7 hommes et 4 femmes de 17 à 49 ans, ont été hospitalisés la semaine dernière. Le chef de la secte, Mackenzie Ntenge, s'est rendu à la police le 15 avril et a été placé en détention. Il a été arrêté après le décès de 2 enfants, morts de faim sous la garde de leurs parents. Selon les médias locaux, 6 de ses fidèles ont également été arrêtés. Dans un rapport, la police avait dit avoir reçu des informations faisant état de personnes mortes de faim Après avoir subi un lavage de cerveau par le chef de la secte, et l'affaire doit être examinée par la justice le 2 mai.
Moscou ne pardonnera pas aux États-Unis leur refus de délivrer des visas aux journalistes russes accompagnant le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lundi et mardi à l'ONU. C'est ce qu'a affirmé dimanche le ministre avant son départ pour New York en dénonçant ce qu'il a appelé une décision lâche de Washington. La Russie occupe ce mois-ci la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU en pleine offensive militaire en Ukraine pour laquelle elle a été mise au banc des nations mondiales. Le département d'État a dit à l'AFP qu'il délivrait couramment des visas aux délégués russes pour les événements à l'ONU, mais a pointé du doigt les restrictions mises sur le personnel de l'ambassade des États-Unis à Moscou. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, les prix d'exportation des principaux produits agricoles de la CEMAC ont progressé de 7,3% au premier trimestre 2023, ce qui n'a pas permis toutefois d'amortir la baisse de 9,9% de l'indice global des produits de base exportés. Les prix à l'exportation de la banane, du cacao et du riz ont augmenté entre 9 et 12%. Après avoir chuté, les prix de l'huile de palme se sont redressés, mais ceux du coton et du tabac se sont détériorés. La quatrième édition des récompenses de la Bourse régionale des valeurs mobilières se tiendra à Lomé au Togo du 10 au 11 mai sous le thème « Marché des capitaux et résilience économique ». Selon le directeur de la BRVM, Edossi Kossi Menounve, il est important de distinguer les acteurs du marché financier, mais aussi les personnalités qui, par leur contribution, participent au rayonnement de la finance et au développement régional et international. La société nigériane Falcon Aerospace Limited a lancé 3 nouvelles unités commerciales pour faciliter la réservation d'avions d'affaires et améliorer la qualité de ses services. VivaJets est en relation avec les régulateurs pour l'obtention des permis et licences. Charter XE permet d'accéder aux services de réservation de jets privés via des dispositifs numériques. Et FlyPGX permet une réservation de luxe par siège sans avoir à réserver un avion entier.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Rien que du football ce matin avec les demi-finales aller des interclubs de la CAF.
Oui, et en Ligue des Champions, les Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis ont un pied en demi-finale après leur succès en Algérie, respectivement 4-1 contre le CR Belouizdad et 1-0 face à la JS Kabylie, proche aussi des demi. Les Égyptiens d'Al Ahly, vainqueurs 2-0 des Marocains du Raja de Casablanca. Par contre, le tenant du titre, le Wydad, s'est incliné 1-0 en Tanzanie devant Simba.
Quart de finale aller également en Coupe de la CAF et belle opération des Young Africans.
Tout à fait. Les Tanzaniens se sont imposés 2-0 à l'extérieur contre Rivers United du Nigeria. Même score en faveur de l'USM Alger qui recevait les Marocains du Far de Rabat. En revanche, tout reste ouvert entre les Tunisiens de l'US Monasti et les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan qui se sont neutralisés 0-0. Un nul, pas sur le plan du jeu, estime l'entraîneur des Mimos Julien Chevalier.
Je pense qu'on aurait pu, avec les situations qu'on s'est créées, arriver à marquer au moins une fois. C'est dommage, on n'a pas su en profiter. Maintenant, il faut rester vigilant parce qu'on a vu avec la dernière action de l'adversaire qu'au moindre petit relâchement, ils peuvent se créer des situations. Donc, ils auraient pu finir par l'emporter. Alors que je pense que sur le match, nous méritions de faire mieux.
Nul également, mais de un but partout entre les Égyptiens de Pyramide et les Sud-Africains de Marumo Galant.
Football toujours avec le mondial des moins de 20 ans. Les 4 équipes africaines qualifiées connaissent désormais leurs adversaires.
Oui, et c'est à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu ce week-end. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, se retrouve dans le groupe C avec la Colombie, l'Israël et le Japon. De son côté, le Nigeria hérite de l'Italie, du Brésil et de la République dominicaine. La Tunisie jouera contre l'Uruguay, l'Irak et l'Angleterre. Enfin, Idrissa, la Gambie affrontera la France, la Corée du Sud et le Honduras. La compétition se déroulera en Argentine du 20 mai au 11 juin prochain. Et puis, une dernière info pour dire que l'ASK va bien défendre son titre de la Coupe de l'Indépendance au Togo. Les chauffeurs de la Cosa, vainqueurs 2-0 de Bikenti, vont affronter en finale jeudi prochain Kouroki de Tchamba qui a sorti Dito de Lomé.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le samedi dernier a été une journée très difficile pour les Maliens, particulièrement pour les forces armées qui ont fait face à des attaques terroristes à Sévaré et à Mourdia et ont vu un de leurs hélicoptères s'écraser à Bamako. Retour sur cette journée meurtrière avec notre correspondant Mohamed Danyakou.
Au lendemain de la fête de l'Eid el-Fitr, les populations de Sévaré ont été réveillées par de fortes explosions d'obus et de véhicules piégés. Plus d'une dizaine de civils ont trouvé la mort dans leur maison. Le chef d'état-major des armées, le général Oumar Diarra, dresse le bilan de cette journée particulière.
Aujourd'hui, nous avons le bilan qui est là. Du côté des femmes, il y a 3 blessés qui ont été pris en charge actuellement. Et du côté des civils, il y a 10 morts. 10 morts, il y a 61 blessés en raison des maisons qui se sont écroulées. Sur ces populations civiles. Du côté terroriste, on a 32 terroristes qui ont été neutralisés et 9 terroristes ont été interpellés dans la zone à Rupote et à Fatoma.
Selon le communiqué de la hiérarchie militaire, cette attaque qui visait l'aéroport de Sévaré a pu être contenue par les forces armées. Des témoignages recueillis auprès des populations laissent entendre que les forces armées de défense étaient en alerte maximale 24 heures avant l'attaque. Hamadou Diallo, promoteur d'hôtel à Sévaré.
Hier, depuis 21h, ils nous ont demandé de faire entrer nos véhicules. Sinon, ils devaient couper la route. Donc maintenant, ils ont fermé tous les accès qui passent devant la porte du camp de l'armée de l'air. Bon, depuis la route qui se ferme à 23h, si on te dit de fermer ça à 21h, bon, depuis ce moment, moi, j'ai douté, quoi. J'ai mis en tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on est dans ça. Vers 5h du matin, on a entendu le bruit.
Au même moment que ces événements se déroulaient à Sévaré, les forces armées ont eu des accrochages avec des groupes terroristes à Mourdia, dans la région de Koulikoro, et à Boni, où l'armée affirme avoir neutralisé une 60aine de terroristes qui préparaient une opération d'envergure. À Bamako, ce sont 3 militaires qui sont morts dans le crash d'un hélicoptère à Missabougou, en commune 6 du district de Bamako. Mohamed Diabaté, un des premiers sur le site du crash, témoigne.
On a entendu un hélicoptère qui volait à basse altitude dans un premier temps. Moi, j'étais en famille avec mon père et ma mère et ma tante. Et après, on a entendu un crash, un grand bruit. Donc, je me suis précipité avec tant d'autres d'ailleurs, avec des copains. Après, les petites connaissances que j'ai en matière de sécurité, donc je me suis entretenu à ne pas trop me rapprocher jusqu'à une centaine de mètres. Donc j'ai quand même vu 2 à 3 personnes qui essayaient tant bien que mal d'arroser l'avion en question pour ne pas que les flammes puissent atteindre tous les paquebots, quoi. Donc mais malheureusement l'avion a explosé.
Ces attaques surviennent quelques jours après l'embuscade près de Nara qui a coûté la vie au chef de cabinet du président de la transition et à 3 autres personnes. Mohamed Danyakou pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a profité de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fin du mois de Ramadan, pour faire des promesses visant à contribuer à l'apaisement. Il a décidé de libérer tous les prisonniers d'opinion sous son règne et demande aux jeunes de ne pas encourager le repli identitaire sur les réseaux sociaux afin de préserver la paix sociale. Les précisions de notre correspondant Anjamena, André Kotmadjingar.
Face aux leaders religieux, membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, qu'il recevait ce week-end dans son palais après la prière au président de la transition, Mohamed Idriss Déby, se veut rassurant.
Je m'engage devant vous et devant Dieu à libérer tous les compatriotes inculpés en raison de leur implication dans le coup d'État raté du mois de décembre dernier. Ma profonde foi dans le vertu du pardon me guide également à prendre un autre engagement solennel, à libérer les compatriotes détenus dans les différentes provinces suite à l'insurrection du 20 octobre dernier.
Ngaras Al-Jacques, représentant de la plateforme Tournant la page, section du Tchad, salue cette décision, même si, pour lui, il s'agit d'une stratégie politique pour gagner le cœur des Tchadiens qui sont déçus par la gestion de la transition. Il invite le chef de l'État à penser aux opposants et leaders de la société civile forcés de vivre en exil à la suite des événements du 20 octobre.
Le président de la République, Mamad Kaka, a un défi à relever. Quand on veut se réconcilier avec quelqu'un, il y a des choses qui touchent à son orgueil, mais quand on pardonne avec tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la réconciliation sans toutefois faire rentrer les opposants politiques ainsi que les autres qui sont dans la société civile, qui ont fui à cause de leur sécurité et se trouvent à l'extérieur du pays. De quoi on les reproche? On voit tout autour du Tchad, ça brûle partout. Et les autorités tchadiennes aujourd'hui, ils ont ces défis-là, à ce qu'ils apaisent le climat à l'intérieur du Tchad pour que le Tchad ne s'embrase pas.
Le général Mohamed Idriss Déby a également déploré le discours relent et identitaire véhiculé sur les réseaux sociaux par des jeunes à chaque fois qu'un conflit se déclenche dans le pays.
Prendre fait et cause pour sa communauté à tort et à travers dénote un communautarisme qui ne fera qu'approfondir la division et compromettre l'unité de notre nation. Cette attitude est à l'antipode de l'esprit rassembleur qui m'anime et du sens des actions que je ne cesse de déployer depuis 2 ans.
Pour Dr Gondo Ladiba, sociologue et anthropologue, le phénomène de repli identitaire n'est pas nouveau et les autorités ont une part de responsabilité.
Si l'État ne garantit pas aux citoyens la liberté et la justice et l'égalité, les gens n'ont pas autre choix que d'aller vers là où ils sont plus en sécurité. Le système identitaire, ce n'est pas seulement au niveau des réseaux sociaux, c'est aussi dans notre manière de faire, de gérer l'État au quotidien. Quand on nomme dans un village, on trouve que du préfet au commandant de brigade, c'est la même ethnie. Quelque part, il y a une promotion identitaire, non? Dans un pays comme le nôtre, où l'État ne protège pas les individus, vous voulez que les gens fassent quoi? Qui se taisent, qui n'expriment pas leur colère, ils vont faire comment? Ils vont mourir avec ça?
La semaine dernière, de nouveaux affrontements entre éleveurs, nomades et cultivateurs sédentaires ont fait plus de 22 morts dans le sud du Tchad. Mais les autorités de N'Djamena attribuent cette attaque meurtrière aux rebelles qui seraient venus de la Centrafrique. André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, élection générale en 2023, mais toujours pas de date officielle pour la présidentielle, les législatives et les locales, pourtant censées se tenir avant la fin de l'année. Entre les poids lourds de l'arène politique qui maintiennent le suspense sur leur candidature et la non-révision des listes électorales, les populations redoutent une organisation biaisée du calendrier encore dans les tiroirs du gouvernement. Les réactions dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiengze.
Dans les rues et cafés de Libreville, la tenue des élections générales cette année fait débat. À 4 mois d'une échéance censée débuter par la présidentielle, Lionel Dika fait partie d'une frange de la population gabonaise qui milite déjà pour son report.
Ce serait dans notre intérêt de peut-être repousser pour qu'on évacue les premières échéances, pour que l'organisation soit plus objective.
Or même la promesse des élections apaisées issues des concertations de la classe politique inquiète plus qu'elle ne rassure. Joachim V. et dans le monde des affaires.
Un opérateur économique comme moi, lorsqu'on regarde, on ne voit pas clair. Par rapport aux années précédentes, qu'on a vu les élections, comment ça se passait, rien ne bouge pas.
La même inquiétude d'un calendrier électoral à l'horizon brumeux est partagée par les jeunes. Diplômés ou non, ils questionnent tous l'offre politique des partis de la majorité et de l'opposition. Stéphane Minan, étudiant.
On voudrait avoir déjà une idée sur les candidats et leur programme Donc au moins essayer de savoir déjà qu'est-ce qu'ils vont nous proposer le mieux. Ce n'est pas au dernier moment que Baron sera sur le fait accompli.
Pour la plateforme Alternance 2023 qui regroupe plusieurs formations de l'opposition, la situation actuelle est volontairement créée par le gouvernement. Paulette Nissambo, porte-parole d'Alternance 2023.
Tout est mis en œuvre pour priver le peuple de sa soutien, c'est-à-dire la réalisation de son ardent désir d'alternance démocratique. Tout est mis en œuvre pour soustraire le Gabonais de son devoir civique, en le dégoûtant de la classe politique et de son engagement citoyen pour obtenir sa non-participation aux élections.
Dans le viseur de l'opposition, le rôle de la Cour constitutionnelle qu'elle accuse régulièrement de jouer le jeu du pouvoir, ce que rejette formellement le mouvement Mon Gabon, proche de la majorité. Fabrice Abaré-Eban, membre du bureau national du mouvement Mon Gabon.
Est-ce la Cour constitutionnelle qui définit les stratégies de conquête du pouvoir des politiques? Est-ce la faute de la Cour constitutionnelle si certains politiques font dans le clientélisme?
En fin mars dernier, avant l'ouverture des enregistrements, un petit inventaire porte le nombre de candidatures déclarées à la présidentielle à 15. Pendant ce temps, le mystère reste entier sur les intentions du président sortant, Ali Bongo Ondimba, et de ses farouches adversaires politiques, Jean Ping, Alexandre Barreau-Chambrier ou encore Paulette Missambo. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Pétanque, pour terminer, c'est officiel. Le 50e championnat du monde est maintenu au Bénin. Plus de doute maintenant sur l'organisation de la compétition suite au retard accusé dans la construction du grand boulodrome de Ouida. Un nouveau site l'a rendu possible. Il s'agit de la place de l'Amazone à Cotonou du 8 au 17 septembre prochain. Pour des précisions, retrouvons notre correspondant au Bénin, Élisée Oumpatine.
Cette annonce a réjoui Claude Azéma, président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provincial, venu à Cotonou pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de la compétition.
On est un petit peu avancé, mais ce qu'on veut, c'est après rapporter aux gens des détails, des choses qui sont organisées. Donc c'est pas une inquiétude. Le premier championnat d'Afrique avait eu lieu ici. Ça a toujours été très bien réussi. Et puis pour nous, c'est un appui essentiel de savoir que le gouvernement, le comité olympique, le comité des sports sont derrière la fédération pour réussir.
Il n'y a donc plus d'inquiétude. Le championnat du monde de pétanque, la 50e édition aura lieu à Cotonou. Le lieu et les dates ont été avancées avec beaucoup de précision. Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules.
Le chef de l'État et son gouvernement ont pris la mesure de la chose et ils ont décidé pour le plan B, ça va se dérouler du vendredi 8 au dimanche 17 septembre 2023. Au niveau de la place des Amazones.
De son côté, saluant l'engagement des autorités béninoises d'offrir cet événement international pour leur pays, le président de la Fédération béninoise de pétanque, Gaba Yaya, a réitéré le soutien de tout le peuple béninois pour sa réussite.
Maintenant que le Bénin veut abriter pour la première fois de son existence une Coupe du Monde, je crois qu'il ne revient qu'à tous les sportifs à divers niveaux, toutes les fédérations réunies, pour qu'on porte la chose, pour qu'on dise que prochainement ça va être le temps d'une autre discipline.
Boycon, Élisée Oumpatine, VOA Afrique.
Salut à tous, c'est Yakuba Ouedraogo. Vous aimez le sport? Vous voulez comprendre davantage chaque discipline? Vous voulez en discuter? Retrouvez-moi chaque lundi en direct à partir de 19h05 temps universel dans Sporama sur VOA Afrique. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Laissez-nous vos commentaires et numéro de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.